Chapitre 47. La vagabonde. Matt avait rêvé d'un voyage paisible jusqu'à Éboudard, et ses vœux furent exaucés, jusqu'à un certain point. Mais se déplacer avec 6 femmes, dont 4 Aes Sedai, lui fournit de nombreuses occasions de s'agacer. Le premier jour, ils atteignirent la forêt qui leur avait paru lointaine, alors que le soleil était encore haut dans le ciel. Plusieurs heures durant, ils avancèrent sous un entrelacs de branches pour la plupart dénudées, les feuilles mortes et les brindilles craquant sous les sabots de leurs chevaux. Un peu avant le crépuscule, ils s'arrêtèrent au bord d'un ruisseau malingre et établirent leur camp. Reconnaissable à son menton en galoche et au faucon tatoué sur sa joue, le bras rouge Arnan supervisa l'installation des hommes de la compagnie, s'assura qu'on s'occupait convenablement des chevaux, qu'on disposait les sentinelles selon les règles de l'art et qu'on allumait le nombre de feux requis. Nérim et Lopine coururent en tous sens en marmonnant, parce qu'on n'avait pas emporté de tente. Quand son maître ne lui disait rien, comment un serviteur pouvait-il deviner qu'on allait passer plusieurs nuits à la Belle Étoile? Eh bien, si le maître en question attrapait la mort, il devrait ne s'en prendre qu'à lui-même. L'un presque malingre et l'autre plus qu'enveloppé, il réussissait pourtant à râler avec un bel ensemble digne de jumeaux. Comme de bien entendu, Vanin ne se soucia que de lui-même. Encore que, gardant un œil sur Oliver, il l'aida à étrier son cheval aux endroits auxquels le gamin, très court sur pattes, ne pouvait pas accéder, même en utilisant sa selle comme perchoir. Dans la colonne, tout le monde veillait sur le petit garçon. Les femmes partageaient le camp, comment auraient-elles pu faire autrement? Mais leur « territoire » aurait très bien pu être séparé de 100 pas de celui des hommes. Coupant le périmètre en deux, une ligne invisible semblait hérissée de signes tout aussi invisibles, interdisant au mâle de la traverser. Réunis autour d'un feu de camp, Nineveh, Elaine, les deux Aes Sedai, Avienda et la quêteuse blonde, daignèrent à peine jeter quelques regards vers l'endroit où Matt et ses hommes avaient déroulé leur couverture. D'après les bribes qu'il en capta, Matt déduisit que leur conversation, principalement animée par Vanden et Adeleas, tournait autour d'Avienda. La jeune Aiel comptait-elle vraiment marcher jusqu'à Éboudard en tenant son cheval par la bride? Tom tenta de dire quelques mots à Elaine. Après lui avoir tapoté la joue, la jeune femme le renvoya s'asseoir avec Julin et Jaem, le champion vieillissant de Vanden, qui semblait passer le plus clair de son temps à aiguiser son épée. Matt ne voyait pas d'un mauvais œil que les femmes restent à l'écart. Une tension qui dépassait sa compréhension émanait d'elles, en tout cas d'Elaine et Nineveh, et la quêteuse semblait victime de la contagion. L'ancienne sage-dame et la fille héritière regardaient parfois les Aes Sedai, non, les autres Aes Sedai, quand s'habituerait-il à penser ainsi aux deux femmes, avec une intensité un peu suspecte. Cela dit, Vanden et Adeleas semblaient s'en soucier aussi peu qu'Avienda. Du feu couvait sous les braises, et Matt ne voulait pas être mêlé à cette affaire. Une querelle semblait sur le point d'éclater, et quoi qu'il se passe, un homme avisait rester le plus loin possible de femmes enclines à se crêper le chignon. Et quand il s'agissait d'Aes Sedai, c'était encore plus impératif, même lorsqu'on portait un médaillon protecteur. Bon, il n'y avait pas là de quoi être très agacé, pas plus qu'au sujet de l'autre détail, celui-ci étant entièrement la faute du jeune flambeur. Du feu de camp des Aes Sedai montait une délicieuse odeur d'agneau et de ce qui devait être de la soupe. S'attendant à arriver très vite à Éboudard, Matt n'avait donné aucune consigne à Vanin au sujet des vivres. Du coup, les hommes devraient se contenter d'un peu de viande séchée et de biscuits de voyage durs comme du bois. La colonne n'ayant pas aperçu l'ombre d'un oiseau ou d'un écureuil, sans même parler d'un cerf, chasser aurait été une perte de temps. Quand Nérim vint installer une petite table pliante et un tabouret pour Matt, Lopine faisant de même pour Nalicéane, le jeune homme ordonna à son aide de camp de partager entre les hommes le contenu des paniers d'osier des chevaux de bas. Le résultat ne fut pas à la hauteur de ses espérances. Tandis qu'il servait de l'eau avec une carafe en argent, se livrant au même cérémonial que s'il s'était agi d'un cru rarissime, Nérim grimaça, en voyant les exquises délicatesses que les soldats dévoraient sans y penser.
« Des œufs de caille en saumure, monseigneur !»
gémit-il d'un ton funèbre.
« Ils auraient été parfaits pour le petit déjeuner de monseigneur à Éboudard. Et de la langue fumée. Si monseigneur savait le mal que je me suis donné pour trouver de la langue fumée au miel dans ce trou perdu, alors que ces fichus Aes Sedai ont tout réquisitionné !»
Mais c'était autre chose qui brisait le cœur du domestique. Lopine avait réussi à dénicher pour Nalicéane des roulades d'alouettes. Chaque fois que l'officier en mangeait une, le sourire de Lopine s'élargissait et la mine de Nérim s'allongeait. Cela dit, à voir la façon dont ils humaient l'air, il semblait évident que les hommes auraient préféré une bonne tranche d'agneau et un bol de soupe à toutes les langues fumées du monde. Idem en ce qui concernait le pâté de foie d'oie. Oliver, lui, regardait le feu de camp des femmes avec des yeux brillants d'envie.
Tu veux aller dîner avec elle ?
Lui demanda Matt.
Personne ne t'en voudra, tu sais.
J'adore l'anguille fumée,
répondit courageusement le gamin.
En plus, elle pourrait ajouter du poison dans mon assiette.
Oliver se méfiait toujours autant d'Avienda, la suivant du regard dès qu'elle bougeait. Et il semblait avoir également pris en grippe la quêteuse, probablement parce qu'elle passait beaucoup de temps à bavarder amicalement avec la Yelle. Sans doute parce qu'elle sentait peser sur elle le regard d'Oliver, Avienda se tourna vers lui et plissa le front. Après s'être essuyé le menton, Matt observa lui aussi le camp des Aes Sedai. Tout bien pesé, il aurait également préféré de l'agneau et de la soupe, et constata que Jaem n'était nulle part en vue. Quand il lui ordonna d'aller patrouiller, Vanine ronchonna d'abondance. Déjà, durant la journée, l'éclaireur avait dû vadrouiller sans cesse, alors que Jaem était également parti en avant-garde. Mais Matt n'agissait pas à la légère. Au contraire, il faisait en sorte de ne pas être obligé de se fier à ce que les Aes Sedai voudraient bien lui raconter. À la rigueur, il se serait fié à Nineveh, car elle n'était pas du genre à mentir. En tout cas, à Chandemonde, elle s'était toujours montrée impitoyable avec les menteurs. Mais elle continuait à l'éviter, lui lançant de temps en temps des regards inquiets. À la grande surprise de Matt, Elaine se leva dès qu'elle eut fini de dîner, puis elle traversa d'un pas léger la fameuse ligne invisible. Certaines femmes semblaient glisser sur le sol plutôt que marcher.
« Veux-tu bien faire quelques pas avec moi, Maître Cotton ? »
demanda-t-elle d'un ton froid, sans excès de politesse, il fallait l'admettre, mais sans se montrer vraiment brutale. Matt lui ayant indiqué d'ouvrir le chemin, la fille héritière s'éloigna du camp, dépassa les sentinelles et s'enfonça entre les arbres chichement éclairés par la lune. Avec ses cheveux blonds qui entouraient un visage digne de retenir l'attention de n'importe quel homme, et cette lumière qui gommait presque entièrement son arrogance, si elle avait été quelqu'un d'autre qu'elle-même, Matt ne songeait pas seulement à la qualité d'Aes Sedai de la jeune femme, ni même au fait qu'elle appartenait à Rand. À ce propos, pour un type qui avait toujours su y faire avec les filles, le fichu dragon semblait avoir le chic de s'impliquer avec le pire genre de femme. Quand Elaine prit la parole, le jeune flambeur oublia ses autres préoccupations.
« Tu détiens un Terrangréal, »
dit-elle sans préambule et sans regarder son interlocuteur. Elle avançait, faisant crisser les feuilles mortes, persuadée qu'il la suivrait comme un chien de chasse.
« On pourrait arguer que les Terrangréals appartiennent aux Aes Sedai, mais je ne vais pas te demander de nous restituer celui-là. Personne ne te l'arrachera, mais ces artefacts doivent être étudiés. Pour cette raison, je te demande de me le remettre chaque soir, quand nous nous arrêtons pour la nuit, et je te le rendrai tous les matins. »
Matt coula un regard en biais à la jeune femme. De toute évidence, elle parlait sérieusement.
« C'est très gentil à toi, me laisser ce qui m'appartient. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je possède un de ces... terres machins ?»
Elaine se raidit, et pour la première fois, tourna la tête vers Matt. Bizarrement, ses yeux ne lancèrent pas d'étincelle, mais elle reprit d'un ton carrément glacial.
« Maître Cotton, tu sais très bien ce qu'est un Terrangréal. J'ai entendu Moiraine t'en parler dans la pierre de Théar. »«
La pierre ?»
fit Matt, feignant l'hébétude.
« Oui, je me souviens. Nous y avons tous passé de très bons moments. S'y a-t-il produit quelque chose qui te permette d'exiger quoi que ce soit de moi ? Il ne me semble pas, mais si je me trompe. Je suis ici uniquement pour empêcher que Nineveh et toi vous fassiez trouer la peau, Eboudar. Quand je t'aurai conduite jusqu'à Rand, tu n'auras qu'à l'interroger sur les Terrangréal. »
Un long moment, Elaine regarda Matt, comme si elle envisageait de le dompter par la seule force de sa volonté. Puis elle se détourna et s'éloigna. Le jeune homme la suivit jusqu'au camp. Surpris de l'avoir inspecté la rangée de chevaux entravés, puis examiné les feux et la disposition des couvertures, et enfin hoché la tête en découvrant les restes du repas des soldats. Que fichait-elle donc ? Matt dut attendre qu'elle revienne vers lui pour le découvrir.
« Tes hommes s'en sont très bien tirés, Maître Cotton, »
dit-elle assez fort pour qu'on l'entende dans tout le camp.
« Globalement, je suis satisfaite. Mais si tu avais été moins imprévoyant, ces pauvres soldats ne se seraient pas goinfrés d'une nourriture qui, au minimum, leur pèsera sur l'estomac toute la nuit. Mais l'un dans l'autre, toi aussi tu t'en es sorti avec les honneurs. Et la prochaine fois, je suis sûr que tu sauras anticiper certaines choses. »
Parfaitement sereine, la fille héritière regagna son feu de camp, laissant Matt bouche bée. Cela dit, si les choses en étaient restées là, Elaine le prenant pour un de ses sujets et Nineveh l'évitant au point de se réfugier dans les jupes de Vanden et d'Adeléas, le jeune flambeur aurait volontiers dansé la gigue. Mais après l'inspection de la fille héritière, avant même qu'il ait pu rejoindre sa couverture, la tête de renard devint froide contre sa peau. Sidéré, Matt resta où il était, baissant les yeux sur sa poitrine, avant de songer à regarder en direction du feu des Aes Sedai. De l'autre côté de la ligne invisible, toutes les femmes, Avienda comprise, se tenaient en rang. Elaine murmura quelques mots inaudibles et les deux Aes Sedai aux cheveux blancs hochèrent gravement la tête. Puis Adéléas trempa sa plume dans l'encrier, glissée dans une sorte de fourreau accroché à sa ceinture, et rédigea hâtivement des notes dans un petit carnet. Marmonnant entre ses dents, Ninevé tirait nerveusement sur sa natte. Le face-à-face dura quelques instants. Puis la tête de renard se réchauffa, et les femmes retournèrent s'asseoir autour de leur feu en bavardant entre elles. Régulièrement, et jusqu'à ce qu'ils se couchent, elles jetèrent de temps en temps un coup d'œil à Matt. Le deuxième jour, la colonne atteignit une route, et Jaem retira sa cape caméléon. Sur la large bande de terre compactée, on apercevait de ci de là les vestiges d'un très ancien pavage, mais cette voie ne permit pas aux voyageurs d'avancer plus rapidement. Primo, parce qu'elle serpentait à travers des collines boisées de plus en plus hautes, dont certaines auraient largement mérité le nom de petites montagnes, tant elles s'élevaient de manière abrupte, leur sommet tutoyant les nuages. Secondo, parce qu'il y avait sur cette route un trafic incessant. Pas très dense, certes, mais régulier et gênant, car les piétons au visage hagard paraissaient avoir à peine assez de bon sens pour s'écarter du chemin des charrettes tirées par des bœufs ou des caravanes de chariots bâchés aux fiers attelages de 6 ou 8 chevaux. Sur les pentes de ces collines, des fermes flanquées de granges et d'étables s'accrochaient de leur mieux à la terre. Vers midi, le troisième jour, les voyageurs aperçurent le premier village composé de bâtiments à la façade de plâtre et au toit plat en tuiles roses. Bien entendu, les tracasseries continuèrent. Elaine ne renonça pas à ses inspections, et la deuxième nuit où ils campèrent au bord de la route, quand Matt déclara ironiquement être comblé qu'elle soit satisfaite, la hautaine petite Chippy lui lança un « Vous avez bien raison, maître Cotton », qui semblait, de son côté, ne rien devoir au second degré. Lorsque la colonne commença à descendre dans des auberges, la fille héritière entreprit de s'assurer que les chevaux étaient bien installés dans les écuries, et elle tint aussi à vérifier que les soldats auraient tout le confort requis dans les greniers où on les reléguait. Mais quand Matt lui demanda de cesser ce manège, elle fronça les sourcils et ne daigna pas répondre. Lorsqu'il lui ordonna d'arrêter, il n'eut même pas droit au froncement de sourcils, car elle fit mine de n'avoir rien entendu. Elaine lui suggéra de faire des choses qu'il avait déjà décidées, comme la vérification des sabots des chevaux dans la première auberge proposant les services d'un maréchal ferrant, et plus irritant encore, des choses qu'il aurait veillé à faire s'il avait connu leur existence avant la noble Chippy. Comment avait-elle découvert le furoncle que Tad Candle s'efforçait de dissimuler, afin qu'on ne lui interdise pas de continuer? Matt n'en savait rien. Dans le même ordre d'idées, comment savait-elle que Laudrine Mandaire cachait 5 flasques d'eau-de-vie dans ses fontes? Autant qu'il détesta donner l'impression d'exécuter les ordres d'Elaine, Matt dut reconnaître que le furoncle de Candle devait être vidé. Au sujet de la guérison, beaucoup d'hommes de la compagnie partageaient les réticences de leur chef, tout comme les flasques de cet imbécile de Mandaire. Et il ne s'agissait là que de 2 incidents, parmi une multitude. De plus en plus agacé, Matt implora la lumière que la royale Pimbèche lui demande au moins une fois de faire quelque chose d'inutile. Une seule fois, histoire qu'il ait la satisfaction de refuser. Oui, un refus franc, massif et irrémédiable. Le terrain gréal aurait pu être le prétexte idéal, mais Elaine ne le mentionna plus. Matt expliqua bien entendu à ses hommes qu'il n'avait aucune obligation d'obéir à la jeune femme. Même s'il n'en surprit aucun en train de se soumettre, il vit que les soldats souriaient de plus en plus souvent des compliments d'Elaine, par exemple sur la façon dont ils soignaient leurs montures. Et quand elle les qualifiait de très bons éléments, il fallait les voir bomber le torse, ces imbéciles. Le jour où il vit Vanine porter une main à son front pour saluer la fille héritière, puis lui susurrer un « Merci madame » dégoulinant de vénération, le pauvre Matt faillit en avaler sa langue. Il essaya de se montrer agréable, mais aucune des femmes ne fut sensible à son offensive de charme. Avienda lui lança à la tête qu'il n'avait pas d'honneur, rien que ça, et qu'il ne manifestait pas assez de respect à Elaine. Elle ajouta qu'elle était prête à lui enseigner l'humilité s'il le fallait. Avienda, une femme qu'il soupçonnait toujours de guetter la première occasion d'égorger proprement la fille héritière. Et voilà qu'elle lui donnait du presque sœur à présent. Vanden et Adéléas regardaient Matt comme s'il avait été un papillon rare épinglé sur une planche de liège. La quêteuse. Pour quelques pièces ou pour le simple plaisir, Matt lui avait proposé un concours de tir. Son imagination sans doute stimulée par l'arc qu'elle arborait, la belle blonde avait choisi Birgit comme nom de quête. Croyant peut-être qu'elle était vraiment l'archère de légende, elle avait refusé le défi, en regardant Matt comme si elle le voyait pour la première fois. Depuis, elle l'évitait soigneusement, collant sans cesse au basque d'Elaine, sauf quand elle approchait du jeune flambeur. Ninevé, elle... Durant tout le chemin, elle s'était tenue loin de lui, comme s'il avait senti mauvais. La troisième nuit de voyage, mais la première marquée par un arrêt dans une auberge, un petit établissement appelé le couteau de mariage, Matt l'avait vue dans les écuries, alors qu'elle donnait une carotte ratatinée à sa rondelette jument. Quel que soit le problème entre eux, s'était-il dit, elle accepterait sans doute de parler de Bod avec lui. Il n'était pas fréquent qu'une jeune fille quitte son village natal pour devenir une Aes Sedai, et l'ancienne sage-dame était très bien placée pour savoir ce qui attendait la sœur de Matt.
« Nineveh ? »
avait-il dit en approchant.
« Je voudrais te parler de... »
Impossible d'aller plus loin. Sautant sur place, Nineveh avait brandi vers Matt un poing tremblant, avant de le dissimuler dans les plis de sa robe.
« Laisse-moi en paix, Matt Cotton !»
s'était-elle écriée.
« Tu m'entends ? Fiche-moi la paix !»
Elle était sortie en trombe, courant si vite que Matt n'aurait pas été surpris de voir sa natte se tendre derrière elle comme la queue d'un chat. Après cet incident, il avait eu l'impression de sentir mauvais et d'avoir en plus une maladie répugnante et contagieuse. Dès qu'il faisait mine d'approcher de l'ancienne sage-dame, elle se cachait derrière Elaine, puis le regardait avec une drôle d'expression, comme si elle était sur le point de lui tirer la langue. Décidément, toutes les femmes étaient folles alliées. Au moins, Tom et Julien étaient disposés à chevaucher avec Matt, en tout cas dès qu'Elaine n'exigeait pas qu'il reste avec elle, ce qui arrivait assez souvent. Pour empêcher les deux hommes de trop le fréquenter, aurait juré Matt, même s'il ignorait pourquoi. Dans les auberges, le trouvère et le pisteur de voleurs furent bien entendu ravis de boire une bière chaque soir en compagnie de Matt et de Nalesséan. Dans ces salles communes de campagne aux murs de briques, l'unique distraction était souvent d'observer les allées et venues d'un chat. Immanquablement, c'était la propriétaire qui faisait le service. Et tout aussi immanquablement, elle était munie de hanches si solides qu'un homme sain d'esprit ne se serait pas aventuré à les pincer, de peur de se casser les doigts. Les conversations entre les quatre hommes tournaient autour des Boudards, une cité sur laquelle Tom semblait en savoir long, bien qu'il n'y fût jamais allé. Pour sa part, Nalesséan voulait bien s'étendre sur sa seule et unique visite, mais à condition de se concentrer sur les duels auxquels il avait assisté et sur les courses de chevaux. Julien, lui, rapporta des histoires qu'il tenait d'hommes dont certains amis étaient allés à Eboudar. À première vue, nombre de ces récits paraissaient invraisemblables. Mais Tom et Nalesséan en confirmèrent l'écrasante majorité. À Eboudar, des hommes se battaient en duel pour une femme et des femmes pour un homme. Et dans les deux cas, le trophée, c'était le terme exact, acceptait de suivre le vainqueur. Le jour du mariage, l'homme offrait un couteau à son épouse et lui demandait de le tuer avec s'il osait lui déplaire. Oui, lui déplaire. Sauf si le contraire était expressément prouvé, une femme qui abattait un homme était toujours dans son droit. À Eboudar, les hommes filaient doux devant leur compagne, et ils souriaient lorsqu'elle leur faisait des misères qui auraient valu la mort à un autre mâle. Elaine allait adorer ce pays. Et Nineveh, donc. Matt tira d'autres informations de ses conversations vespérales. Par exemple, il ne s'était pas avisé qu'Elaine et Nineveh, même si elle s'efforçait de le cacher, avaient un gros problème avec Vanden et Adeleas. Pour le moment, l'ancienne sage-dame se contentait de regards noirs et de murmures inamicaux. Elaine, en revanche, tentait en permanence de prendre le contrôle des opérations, comme si elle se croyait déjà assise sur le trône d'Andor. Quel que soit leur âge réel, Vanden et Adeleas étaient assez vieilles pour être les mères des deux autres Aes Sedai, voire leur grand-mère. Pour tout dire, Matt n'aurait pas été surpris d'apprendre qu'elle portait déjà le châle depuis longtemps, au moment de la naissance des petites jeunes. Tom lui-même ne saisissait pas la nature de cette tension. Pourtant, il en savait très long sur bien des choses pour un simple trouvère. Quand il lui avait fait des remontrances sur un ton paternel, Elaine l'avait envoyé sur les roses, lançant qu'il ne comprenait rien à rien. Les deux Aes Sedai aux cheveux blancs se montraient bizarrement tolérantes. Quand Elaine donnait des ordres, Adeleas faisait mine de ne pas s'en apercevoir. Et quand elle le remarquait, elle ne cachait pas sa surprise, à l'instar de Vanden.
« Vous voulez savoir ce qu'a dit Vanden ?»
demanda Julien, le nez dans sa chope de bière, tandis qu'il rapportait un incident à ses nouveaux amis.
« Eh bien, si c'est ta volonté, mon enfant, nous nous y plierons. On croirait qu'une acceptée récemment élevée adorerait ça, non ? Mais le regard d'Elaine m'a fait penser à un ciel d'orage. Et Nineveh a grincé si fort des dents que j'ai eu peur qu'elle se brise. »
Les quatre hommes buvaient dans la salle commune du couteau de mariage. Autour d'eux, Vanin, Arnan et d'autres hommes occupaient les tables au milieu des clients du cru. Ici, les hommes portaient de longs gilets, souvent d'une couleur assez vive pour convenir à un zingaro, sur leur torse le plus fréquemment nu. Vêtus d'une robe claire au décolleté étroit et profond, les femmes s'asseyaient de façon à dévoiler les jupons bariolés qu'elles avaient enfilés dessous. Un arc-en-ciel, à côté duquel les gilets seraient presque passés pour sobres. Beaucoup d'hommes, et la totalité des femmes, arboraient de grandes boucles d'oreilles, et trois ou quatre bagues brillaient au doigt de leurs deux mains. De la verroterie clinquante, rien de plus. L'air méfiant, tandis qu'ils étudiaient les étrangers, les clients des deux sexes caressaient du bout des doigts le manche du grand couteau à lame incurvée, glissé à leur ceinture. Deux caravanes de marchands, en provenance de la Madicia, étaient descendues au couteau de mariage. mais les négociants avaient mangé dans leur chambre et les conducteurs de chariots étaient restés avec leur véhicule. Elaine, Ninevé et les autres femmes étaient aussi à l'étage.
« Les femmes sont... différentes. »
Ricanan a laissé Anne en jouant avec la pointe de sa barbe. Bien qu'il répondît à Juline, l'officier s'adressait à Matt. D'habitude, il se montrait moins distant avec les roturiers. Mais Juline était un roturier de Théar, et ça semblait faire une grande différence. D'autant plus que le pisteur de voleurs, sans doute par défi, s'obstinait à regarder fixement Nalesséane quand il s'adressait à lui.
« Il y a un dicton en Théar, la sagesse des paysans. Une Aes Sedai, c'est 10 femmes dans une seule peau. Les gens des campagnes sont parfois très avisés. Que la lumière brûle mon âme si je me trompe. Au moins,
intervint Tom,
aucune n'a fait quelque chose de, radical. Encore que nous n'en soyons pas passés loin, quand Elaine a révélé sans le vouloir qu'elle a pris Birgit pour championne.
La quêteuse ?
S'écria Matt. Plusieurs clients du cru tournant la tête vers lui, il baissa le ton.
Elle est également une championne ? Et celle d'Elaine ?
Voilà qui expliquait bien des choses. Tom et Juline échangèrent des regards interloqués par-dessus leur chope de bière.
« Elle sera contente d'apprendre que tu as reconnu en elle une quêteuse du corps, »
dit Tom, en essuyant la mousse qui maculait sa moustache.
« Oui, elle est la championne d'Elaine, et ça a failli semer un beau désordre. Jaim l'a immédiatement prise sous son aile comme une sœur cadette, mais Vanden et Adeleas... »
Il eut un soupir accablé.
« Ah. Elles n'ont pas apprécié du tout que la fille héritière ait déjà fait son choix. Apparemment, les Aes Sedai attendent des années avant de trouver la bonne personne, et qu'il s'agisse d'une femme n'a rien arrangé, bien au contraire. Et leur réaction a bien entendu hautement déplu à Elaine. Les sœurs ne semblent pas aimer tout ce qui s'écarte des traditions,
fit remarquer Juline.
Une championne,
souffla Nalesséane.
Je savais que tout changerait avec l'avènement du dragon réincarné, mais à ce point... Si elle sait tirer avec cet arc... « Je suppose que cette blonde s'en sortira bien. »
fit Matt, fataliste. S'avisant que Juline manquait s'étrangler, il lui lança.
« Tu as avalé de travers ? Moi, je veux bien échanger à tout moment n'importe quelle épée contre un arc. Un bâton de combat, c'est encore mieux, mais bon. J'espère seulement que cette quêteuse ne me posera pas de problème quand je déciderai de ramener Elaine à Rand. »«
Je pense qu'elle sait tirer, Matt. »
dit Tom, en se penchant par-dessus la table pour taper dans le dos de Juline.
« Oui, j'ai d'excellentes raisons de le croire. »
Si Ninevé et les autres avaient quelques motifs de se crêper le chignon, un événement auquel Matt n'avait aucune envie d'assister de près ou de loin, tête de renard ou non, elle n'en laissait rien transparaître devant lui. Au contraire, elles lui opposèrent un front uni et multiplièrent les tentatives d'utiliser sur lui le pouvoir de l'unique. La série commença le lendemain du premier assaut, alors qu'il était en train de sceller Pépin. Occupé à faire déguerpir Nérim, convaincu que c'était son travail, il semblait en outre persuadé d'être en mesure de le faire mieux que son maître, Matt n'eut pas besoin d'un effort particulier pour ne pas montrer qu'il s'était aperçu de quelque chose. De toute façon, le médaillon était devenu froid à peine quelques secondes. Ce serait sa stratégie, avait-il déterminé. Pas de réaction, aucun regard, et pas l'ombre d'une accusation. Ignorant les sœurs, il les laisserait mijoter dans leur jus. Il eut une foule d'occasions de jouer à ce petit jeu. Avant qu'ils aient rejoint la route, la tête de renard devint froide à 2 reprises. Et cela continua les jours suivants. Parfois, l'attaque durait une fraction de seconde, et à d'autres moments, elle pouvait se prolonger pendant 1 heure. Et bien entendu, le jeune homme ne pouvait pas dire de qui venaient ces tentatives, en règle générale en tout cas. Une fois, alors que la chaleur lui irritait terriblement la peau du dos, le foulard qu'il portait autour du cou semblant sur le point de l'étrangler, voire de le décapiter, il avait surpris Ninevé en train de le regarder, au moment précis où le médaillon devenait froid. Les yeux de l'ancienne sage-dame brillaient si intensément qu'un fermier qui passait par là, aiguillonnant son bœuf avec un bâton pour qu'il tire un peu plus vivement sa charrette, s'était éloigné en jetant de fréquents coups d'œil derrière lui. À croire qu'il avait peur que ce regard foudroie son pauvre bœuf et le laisse en rade sur la route avec sa charrette. Quand Matt lui rendit son regard incendiaire, Ninevé sursauta, manquant tomber de sa selle, et la tête de renard reprit aussitôt sa température normale. Pour les autres attaques, Matt n'avait pas de suspecte précise. En certaines occasions, il avait vu que 2 ou 3 femmes le regardaient en même temps, y compris Avienda, qui continuait à marcher et à tenir sa monture par la bride. D'autres fois, pas une seule ne s'intéressait ouvertement à lui, l'attention de ces dames retenue par un aigle qui planait dans le ciel, ou par quelque ours géant qui se faufilait entre les arbres sur le flanc d'une colline. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'était l'air mécontent d'Elaine. Même si Matt ignorait la raison de son courroux, Pour être franc, il s'en fichait royalement, ça ne risquait pas de lui briser le cœur. Passer ses hommes en revue, le complimenter en lui tapotant la tête, comme s'il était un bon toutou. S'il avait été le genre de rustre que rien n'arrête, quel plaisir il aurait pris à botter les princières fesses de cette chipie. À vrai dire, cependant, il commençait à se sentir fier de lui, et pas qu'un peu. Quoi que lui fassent ses femmes, ça n'avait sur lui aucun effet qu'une noisette de baume miracle de Nérim ne soit pas en mesure de guérir. Et les étranges lésions, selon le domestique, n'étaient pas des engelures. En fait, Matt se rengorgea jusqu'à la quatrième fin d'après-midi du voyage. Alors qu'il s'éloignait des miteuses écuries d'une auberge nommée l'Anneau du Sud, après y avoir laissé Pépin, remontant l'avenue principale d'un minable village de maisons en briques blanchies appelé Sautéar, quelque chose de mou le frappa entre les omoplates. Tandis qu'une odeur de crottin de cheval lui montait au nez, il se retourna, prêt à tailler en pièces un crétin de garçon d'écurie ou quelques péquenauds du cru, et tant pis pour le couteau qu'ils portaient tous à la ceinture. Mais il ne vit aucun idiot du village, pas l'ombre d'un garçon d'écurie, et rien qui ressemblât à des péquenauds. En revanche, il repéra au premier coup d'œil Adéléas, occupée à prendre des notes dans son carnet en hochant la tête. Elle avait les mains parfaitement propres cependant. Matt entra dans l'auberge, demanda du punch à la tenancière, puis changea d'avis et commanda de l'eau-de-vie. L'éthique bonne femme lui apporta un liquide trouble qu'elle présenta comme un alcool de prune, mais qui avait le goût d'un acide capable de dissoudre la rouille. Julien se contenta de renifler l'étrange breuvage, et Tom n'alla même pas jusque-là. Après en avoir bu une gorgée, Nalécéane, pourtant connue pour avaler n'importe quoi, demanda un gobelet de punch. Matt perdit assez vite le compte des petits verres d'étain qu'il vida, mais quand il en eut terminé, il fallut Nérim et Lopin pour le porter jusqu'à son lit. Il ne s'était jamais autorisé à se pencher sur les éventuelles limites de sa tête de renard. Les preuves qu'elle neutralisait le Saïdar ne manquaient pas, mais s'il suffisait aux sœurs de ramasser quelque chose avec le pouvoir et de le lui lancer dessus...
« C'est quand même mieux que rien »,
se consola-t-il, une fois qu'il fut étendu sur son lit bancal.
« Beaucoup mieux que rien, même. »
Cela dit, s'il avait encore été capable de tenir sur ses jambes, il serait redescendu, afin de continuer son tête-à-tête avec le redoutable gnôle. Le cinquième jour, sous un soleil de plomb, alors qu'il était d'une humeur de dogue, sa langue lui semblant collante comme de la glu, tandis que sa tête résonnait comme un tambour même en l'absence de bruit, le jeune flambeur eut son premier aperçu des boudards. Au sommet d'une côte, il distingua dans le lointain la grande cité, qui se dressait sur les deux berges du fleuve Eldar, tout près d'une grande baie qui grouillait de navires. Un mot s'imposa aussitôt à l'esprit de Matt. Blanc. Des bâtiments blancs, des palais blancs, des tours et des minarets blancs. Si les dômes blancs en forme de navets géants ou de poires surdimensionnées arboraient souvent des bandes pourpres, bleues ou jaunes, la ville était pour l'essentiel immaculée et reflétait la lumière d'une manière quasiment douloureuse pour les yeux. La porte que franchit la petite colonne, une haute arche au sommet pointu, se découpait sous un mur d'enceinte si haut que les cavaliers durent faire une bonne vingtaine de pas avant d'émerger de son ombre pour retrouver les cuisants assauts du soleil. Éboudar semblait être une cité composée de canaux, de ponts et d'esplanades. De toutes les largeurs, les canaux étaient sillonnés par des barges propulsées à la perche par de solides gaillards. Également de toutes les tailles, les ponts culminaient souvent à des hauteurs impressionnantes, certains se révélant assez imposants pour que des échoppes s'alignent sur leurs flancs. Quant aux esplanades, elles grouillaient de monde, la foule se massant tout particulièrement autour des fontaines ou des statues qui se dressaient en leur centre. Partout, des palais munis de portiques à colonnades côtoyaient des boutiques de vêtements ou de textiles divers. Pareillement, des édifices à quatre niveaux, leurs fenêtres en forme d'arche dissimulées derrière des persiennes, voisinaient avec des écuries, des coutelleries ou des poissonneries. Sur une des vastes esplanades, Vanden tira sur les rênes de sa monture afin de converser avec Adéléas. Alors que Ninevé plissait le front, Elaine contempla ce spectacle avec des yeux si froids qu'on ne se serait pas étonné si des stalactites avaient pendu de son nez et de son menton. Sur l'insistance de la fille héritière, Avienda était montée en selle pour entrer en ville. Aussi maladroitement qu'elle avait enfourché sa monture, elle mit pied à terre et regarda autour d'elle avec de grands yeux. À peu de choses près, elle semblait aussi éberluée qu'Olvert, dont les yeux n'avaient cessé de s'arrondir depuis qu'il avait découvert la cité. Imitant le comportement de Jaem avec Vanden, Birgit s'efforçait de suivre Elaine comme son ombre. Matt profita de la pause pour s'éventer avec son chapeau et sonder les alentours. Avec ses dômes, ses flèches de pierre et ses colonnades, le plus grand palais qu'il ait vu jusque-là occupait tout un côté de l'esplanade. Sur les trois autres, on remarquait l'alternance habituelle de demeures cossues, d'auberges et de boutiques. Au centre de l'immense place, la statue d'une femme, vêtue d'une robe ample et plus grande qu'un ogier, trônait sur un piédestal d'une hauteur vertigineuse. Un bras tendu, l'inconnu de marbre désignait le sud, où se trouvait la mer. Ici, et c'était compréhensible à cause de la chaleur, seuls de très rares badauds allaient et venaient. Quelques personnes, assises sur les marches les plus basses du piédestal, savouraient leur repas de midi, tandis que des pigeons et des mouettes se disputaient âprement les miettes qu'elles laissaient tomber sur le sol. Devant ce spectacle paisible, Matt ne comprit pas pourquoi il entendit soudain des déroulés dans sa tête. Un phénomène qu'il connaissait parfaitement. Parfois, il se produisait lorsque sa chance devenait insolente lors d'une partie de dés ou de cartes. Lorsqu'une bataille s'annonçait, en revanche, c'était systématique. Idem au moment où le jeune homme devait prendre une décision importante, du genre qui pouvait lui valoir de finir la gorge ouverte s'il se trompait.
« Nous allons entrer par une des portes secondaires, »
annonça Vandaine. Adeleas approuva du chef.
« Merylil fera en sorte qu'on nous affecte des chambres, histoire qu'on se rafraîchisse un peu. »
Le grand complexe devait donc être le palais Taracine, fief de Tailin Kintara de la maison Mitsobar, l'occupante actuelle du trône des vents qui régnait sur Eboudar et tout ce qui s'étendait à 40 lieues à la ronde. S'il n'avait pas réussi à glaner beaucoup d'informations sur ce voyage, Matt savait au moins que les Aes Sedai devaient rencontrer l'une des leurs au palais, et bien entendu, se présenter devant Tailin. Comment les sœurs auraient-elles pu ne pas voir la reine? Alors qu'il étudiait l'immense complexe tout aussi blanc que le reste de la cité, Matt se demanda comment on se sentait à l'intérieur. D'habitude, il aimait bien les palais, comme tous les endroits où on trouvait de l'or et de jolies servantes, un bon matelas de plumes faisant office de cerise sur le gâteau. Mais un palais royal impliquait de croiser des nobles, dès qu'on mettait le nez hors de ses appartements. Et en matière de nobles, Matt privilégiait la rareté. Une saine philosophie, quand on songeait que même Nalséan pouvait à l'occasion lui taper sur les nerfs. De plus, dans un complexe pareil, comment savoir où seraient Nineveh et Elaine, sauf à les suivre comme leur ombre? Allait-elle refuser qu'ils les suivent en jouant les gardes du corps, ou accepter qu'ils viennent? Et que devait souhaiter Matt d'un point de vue personnel? Pas la lumière. Il entendait déjà Elaine lâcher de sa voix glaciale. « Veuillez prévoir un endroit où Maître Cotton et mes hommes puissent dormir. Surtout qu'on les nourrisse convenablement. » Et puis quoi encore? D'autant plus que la fichue fille héritière ne se priverait pas de ses inspections, venant lui dire devant ses petits gars ce qu'il avait déjà décidé de faire. En y réfléchissant bien, s'il existait un endroit à Eboudar où Elaine et Nineveh seraient en sécurité, c'était bien le palais de la reine. Matt, quant à lui, rêvait d'un lieu où il pourrait boire du punch avec une fille sur les genoux, histoire de faire passer son mal de crâne. Des serviettes humides ne seraient pas mal non plus, pour commencer. Bon, d'accord, il avait la gueule de bois. Le sermon d'Elaine, sur la sobriété et le bon exemple que devait donner un chef, retentissait encore à ses oreilles. Une autre raison pour affirmer son indépendance. Sortant à peine du lit, se demandant encore s'il aurait la force de se hisser sur Pépin, Matt n'avait pas eu la force de se défendre le matin, et Elaine en avait profité pour dépasser toutes les bornes. S'il ne faisait pas quelque chose, il finirait aussi par la saluer en balbutiant des remerciements. Toutes ces pensées défilèrent dans la tête de Matt, pendant que Vandaine faisait tourner son ongle en direction du palais.
« Mes hommes et moi, nous allons descendre dans une de ces auberges, »
annonça Matt.
« Nineveh, si Elaine ou toi voulaient sortir du palais, faites-moi prévenir, et je vous enverrai une escorte. »
Les femmes étant toutes persuadées de pouvoir se débrouiller seules et sans armes dans une fosse à ours, l'ancienne sage-dame s'abstiendrait probablement d'avertir qui que ce soit. Mais Vanine, Matt aurait parié son chapeau là-dessus, trouverait certainement un moyen de savoir quand ces dames seraient de sortie. Sinon, Julin, en digne pisteur de voleurs, s'en chargerait à sa place.
« Celle-ci ira très bien, »
dit Matt, en désignant au hasard un grand bâtiment, de l'autre côté de l'esplanade. Au-dessus de l'arche d'entrée, une enseigne battait au vent, bien trop loin pour qu'on puisse voir ce qu'elle représentait. Vandaine regarda Adeleas, Elaine fit de même avec Nineveh, et Avienda fronça les sourcils à l'intention du jeune flambeur. Mais celui-ci ne leur laissa pas le temps de parler.
« Tom, Julin, que diriez-vous de quelques chopes de ponche ?»
De l'eau serait peut-être préférable. De sa vie, Matt n'avait jamais autant bu que la veille. Le trouvère secoua la tête.
« Plus tard, peut-être. Je dois rester près d'Elaine, au cas où elle aurait besoin de moi. »
Le sourire paternel que le vieil artiste adressait à la fille héritière s'effaça lorsqu'il vit qu'elle regardait fixement Matt sans dissimuler son mécontentement. Sans sourire, mais c'était habituel chez lui, Julin déclina également l'invitation de Matt.
« Comme vous voudrez, »
soupira celui-ci en remettant son chapeau.
« Vanine ! Vanine, bon sang !»
Sursautant, le gros éclaireur cessa de couver Elaine d'un regard plein d'adoration. Honteux, il s'empourpra. Décidément, cette femme avait une mauvaise influence sur tout le monde. Alors que Matt orientait Pépin dans le sens du salut, la voix hautaine de la fille héritière retentit dans son dos.
« Maître Cotton, ne laisse pas tes hommes boire plus que de raison. Certains idiots ne savent pas s'arrêter. Tu ne voudrais pas qu'un petit garçon assiste à des scènes d'ivrognerie ?»
Matt serra les dents et traversa l'esplanade sans se retourner. Oliver le regardait, devina-t-il. Il allait devoir dire à ses hommes, à Mundaire surtout, de ne pas se saouler devant le gosse. Mais quand cette pimbèche cessera-t-elle de lui dicter ce qu'il devait faire ? L'auberge, découvrit le jeune homme, s'appelait La Vagabonde. Malgré ce nom étrange, le dessin qui figurait sur l'enseigne, puis la salle commune, se révélèrent des plus prometteurs. La pièce, au plafond très haut, était bien plus fraîche que l'extérieur, en partie à cause des volets de bois qui protégeaient ses grandes fenêtres en forme d'arche. Richement sculptés, les volets en question semblaient compter plus de trous que de matière, mais ils remplissaient pourtant leur office. Quelques étrangers occupaient les tables où siégeaient en majorité des indigènes. Matt identifia un mourandien élancé à la moustache frisée et un négociant du Candor rablé, reconnaissable aux deux chaînes d'argent qui barraient sa poitrine. Les autres, impossible de dire d'où ils venaient. Dans un coin de la salle où dérivaient les volutes de fumée des amateurs de pipe, deux jeunes femmes jouant de la flûte et un type martelant le tambour coincé entre ses cuisses produisaient un étrange fond musical. Cerise sur les gâteaux, toutes les servantes étaient jolies, et des types jouaient au dé sur pas moins de quatre tables. Le négociant, lui, disputait une partie de cartes. L'aubergiste, fort distingué, déclara se nommer Sétal Anan. À voir ses yeux noisettes, cependant, elle n'était certainement pas originaire des Boudards.
« Mais bon seigneur, »
dit-elle en s'inclinant, ses grands anneaux d'oreilles en or oscillant en cadence.
« La Vagabonde aura-t-elle l'honneur de vous offrir ses humbles prestations ?»
Malgré ses cheveux très légèrement grisonnants, cette femme était très belle. Matt préféra pourtant se concentrer sur ses yeux. En guise de pendentif, elle portait autour du cou un couteau de mariage. La poignée incrustée de gemmes rouges et blanches venait se nicher parfaitement au cœur de son audacieux décolleté, et une autre lame, incurvée celle-ci, était glissée à sa ceinture.
« Maîtresse Anan, »
dit Matt, sans pouvoir s'empêcher de sourire.
« J'ai l'impression d'être de retour chez moi. »
Curieusement, les dés avaient cessé de rouler dans la tête du jeune flambeur.